RCF. Mon village de la résilience, c'est un livre de Michel Ravel qui nous raconte La Bouchatte, un pensionnat dans lequel il est envoyé au bout de plusieurs années de maltraitance qu'il subit, écrit-il, à la maison sous la coupe de son père violent, mais aussi à l'école. Ce pensionnat pourtant sera un havre dans lequel le jeune Michel pourra commencer à se reconstruire. Et il est avec nous tout de suite. Michel Ravel, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs.
Alors, Mon village de la résilience, donc ce livre qui raconte votre histoire, une histoire vraie, mais aussi une histoire que vous voulez quelque part positive, une histoire de reconstruction. Comment peut-on apprendre à se reconstruire après ce que vous avez vécu ?
Eh bien, avec beaucoup de volonté. Et puis savoir exactement où est-ce qu'on veut aller. Voilà, je me suis aperçu très tardivement, d'ailleurs il y a peu de temps, que j'avais ça un petit peu dans mes gènes, hein, que je voulais surtout pas me laisser abattre, que je voulais vraiment avancer, que je voulais pas me laisser faire et puis peut-être quelquefois me rebiffer et puis dire les choses telles que je les voyais et tout. Je me suis aperçu de ça en lisant mon dossier il y a à peine 2 ans, alors que je l'avais demandé il y a plus de 20 ans à l'établissement donc de la Bouchatte. Et il s'avère que dans ce dossier, j'ai eu l'impression que au moment où je l'ai ouvert, qu'on faisait mon profil psychologique la veille de l'ouverture de l'enveloppe. Voilà, autant dire que j'ai jamais changé d'un iota. Je savais exactement ce que je voulais. C'est peut-être pour ça.
Derrière vous, on lit Carpe Diem et Ataraxie.
Oui.
Sur une décoration. Voilà, on est en visioconférence avec Michel et c'est vrai qu'on lit ces deux mots-là derrière vous. Vous êtes à votre bureau, mais aussi la sérénité, le rêve et la famille. Voilà, Michel qui fait un petit écart pour montrer cet élément de décoration sur lequel il y a ces mots. Ces mots, ils résonnent pour vous fortement.
Oui, c'est moi qui ai fait le tableau. C'est moi qui ai fabriqué ce tableau. Je change régulièrement les photos. Effectivement, il y a le mot carpe diem, hein, vive le moment présent. Famille pour moi qui a une importance primordiale, hein, qui est ce que j'ai fondé avec mon épouse et puis mes 2 enfants et aujourd'hui mes 2 petits-enfants. Et puis sérénité, parce que c'est important. La sérénité est très importante, hein, pour pouvoir continuer de vivre. Les rêves, il faut toujours avoir des rêves. Et puis Ataraxie. Je pense que ça parle beaucoup plus en ce moment. La paix de l'âme, justement, c'est certainement quelque chose qui équivaut pour moi à la résilience.
D'ailleurs, un livre que vous présentez en auto-édition, pourquoi c'est important d'écrire ce livre pour vous ? Quel a été le déclencheur ?
Alors le déclencheur remonte très très loin. Ça remonte en 2001, où au moment où j'ai fait une forte dépression. Ça se passait très très mal au travail, ça se passait très mal autour de moi, je supportais plus grand chose. Je suis allé voir une spécialiste qui, après quelques mois et quelques années de thérapie, m'a demandé d'écrire et d'écrire à tous mes destructeurs, d'écrire à mes parents, d'écrire à toutes les personnes qui me voulaient en gros du mal et surtout de ne pas envoyer des lettres et de les brûler ou de les enterrer ou de faire ce qu'on voudra. Mais c'est ce que j'ai fait. J'ai senti les premiers effets quelques temps après et puis. Et ensuite, cette histoire, j'ai eu peur qu'elle m'échappe, j'ai eu peur de perdre mon identité et je sentais que j'oubliais de plus en plus. C'était d'ailleurs le but, hein, mais moi c'est ce qui m'avait construit, c'est mon ADN. Et donc du coup j'ai tout réécrit de A à Z, voire même avec beaucoup plus de détails. Et puis j'ai laissé ça tranquille dans un coin, me disant que c'était plus dans ma tête, que c'était dans le coin d'un bureau et dans le coin de mon ordinateur, dans un dossier. Et que le jour où j'en aurais besoin, ça serait à la portée de ma main.
Mais parce qu'il y a aussi dans cette écriture, qu'est-ce que vous ressentez justement au moment où vous écrivez ça? Parce que ça devait être très difficile.
Alors, au moment où je l'ai écrit, beaucoup de haine, beaucoup de vengeance, beaucoup de... Voilà, c'était vraiment très violent. Et avec le temps, avec les plus de 20 ans qui ont passé, quand j'ai repris mes écritures suite à 2 décès successifs, celui de ma nièce d'un accident de voiture, qui a malheureusement été fauchée par une fille complètement inconsciente, hein, qui était... tant sur la vitesse que la drogue et tout un tas de choses, on en parle souvent. Et puis au moment où j'allais l'annoncer à mon frère, je l'ai retrouvé chez lui décédé. Donc la même journée, j'ai appris 2 décès, il était déjà décédé depuis 3 jours. Et je me suis dit, comment je vais pouvoir me retaper avec ça, comment je vais pouvoir avancer. Et j'ai vite, plus vite que je le pensais, été comment je peux vous dire, j'ai accepté. Voilà, j'ai accepté ces deux départs, même s'ils sont durs, même s'ils sont difficiles. Mais j'ai une phrase souvent que je dis, tout ce qu'on ne peut pas changer, il faut apprendre à vivre avec. Et aujourd'hui, je vis avec, malheureusement, sans eux, mais avec leur départ. Voilà, et c'est certainement cette rapidité d'adaptation qui a fait que je me suis senti aujourd'hui que c'était le moment aujourd'hui d'écrire et de partager mes écrits. Et là, ça s'est fait avec beaucoup moins de violence, simplement des constats, simplement j'ai repris toutes mes écritures et en pensant aussi que ça pouvait être lu aussi. Je voulais blesser personne, je voulais, même si les deux protagonistes sont déjà décédés, mais au moins, voilà, tant sur ma famille, tant que sur mes amis, toutes les personnes qui pouvaient être repérées dans ces écrits, je souhaite de ces écrits que ça serve au moins à une personne, deux qui ont été malheureusement cabossées par la vie, et de se dire qu'on peut se relever de ces cendres.
C'est vous-même et votre fratrie, finalement. Vous avez aussi deux sœurs, il me semble, qui vont endurer à la fois des violences physiques, quotidienne, des violences psychologiques quotidiennes, des violences sexuelles. Quand on lit votre témoignage dans la montagne, on se dit finalement, vos deux parents vous ont imposé quelque part une famille dysfonctionnelle à l'époque. Comment est-ce qu'on sort de ça, peut-être petit à petit, peut-être que le fait d'avoir vécu ça aussi en étant enfant, ça vous a permis de vous en sortir plus vite, je ne sais pas, je pose la question.
Ah ben, c'est une très bonne question. La question, elle est qu'à 18 ans, je suis parti de chez moi. J'ai fui sans le savoir le cocon familial. Je suis arrivé donc dans le Cantal parce qu'il fallait que je parte le plus loin possible. Et un an après, j'ai rencontré mon épouse, certainement la plus belle femme du monde, celle qui m'a porté, qui m'a soutenu, présente le temps de toute cette tempête qu'il y avait dans ma tête et tout ce mal-être aussi. Et là, j'étais accueilli par des personnes extraordinaires, mes beaux-parents que je remercierai jamais assez, qui m'ont accueilli les bras ouverts, sans jamais me poser quoi que ce soit comme question, qui aujourd'hui, j'ai toujours un plaisir fou d'aller les rencontrer, d'aller les voir et tout. C'est mes parents, c'est pour moi des parents, plus que des beaux-parents. Et là, j'ai appris ce qu'était une famille. Alors, effectivement, dans une famille telle que la mienne, où on était tous élevés au marron et à la châtaigne, c'est là-bas, c'était pas ça. Donc, il y avait du respect mutuel. Et je me suis dit, est-ce que c'est pas ça? La vraie famille, est-ce que c'est pas ça? Et donc, j'ai préféré prendre cette solution-là, que je regrette pas d'ailleurs.
Vous parlez aussi...
Et pour ça, il a fallu également formater le disque dur. C'est-à-dire que tout ce que j'avais appris... il a fallu tout formater, il a fallu tout réapprendre avec d'autres codes. Et puis voilà, comme je vous le disais, je ne regrette absolument rien.
Et c'était conscient pour vous, à ce moment-là, à 18 ans ?
Non, absolument pas. Absolument pas, c'est un déclic qu'il y a eu. Alors je prends cette image d'un déni de grossesse. On revient de chez ma sœur, ma femme m'annonce dans la voiture une terrible nouvelle, que ma sœur avait été abusée sexuellement à plusieurs reprises et... beaucoup de fois. Et donc, comme je vous le disais là sur l'image du déni de grossesse, c'est que la personne elle a le ventre, la femme a le ventre totalement plat. Et au moment de l'échographie, on lui dit qu'elle porte un bébé. Là, le ventre se met à gonfler. Et là, moi, j'ai retrouvé toutes mes images. J'ai retrouvé les pièces du puzzle qui me manquaient. Et effectivement, j'ai retrouvé des parents, mes vrais parents avec leur vrai visage. Et effectivement, j'ai eu des scènes. Alors pas des scènes sexuelles, même si on peut l'imaginer, mais c'est pas. Alors des filles couchées, enfin mes sœurs couchées à côté de mon père, des embrassades, des choses qui me paraissaient totalement naturelles parce que voilà, moi j'avais vu que ça, et on avait vu que ça. Et la seconde où j'ai appris ça. J'ai soutenu mes sœurs, parce que ça, il n'y avait aucun doute, je ne pouvais absolument pas douter de quoi que ce soit, de ce qu'elles m'apportaient, et c'est pour ça que j'ai voulu les soutenir, et ce bouquin sert aussi un petit peu à ça également.
Il y a besoin d'une communauté pour se reconstruire.
Totalement, totalement, et je le dis, l'artère le principal, la colonne vertébrale de mon livre, c'est un proverbe africain qui dit « il faut tout un village pour élever un enfant, ce village, c'est... mes destructeurs, toutes les personnes aussi qui ont... alors mes destructeurs, ils m'ont montré là ce que je ne voulais pas. Donc déjà, une image que je ne voulais pas. Par contre, bien d'autres, hein, les institutions, qui a été la Bouchatte, et puis un grand nombre de personnes autour de moi, des thérapeutes, des amis, des collègues, tout ça. Donc ça a été mon village, c'est pour ça que ça s'appelle le village de la résistance, de résilience.
De la résilience, donc le village de la résilience que l'on peut acheter maintenant, qui a diffusé cette interview, à partir de ce 13 décembre 2025. Où est-ce qu'on peut l'acheter ?
Le lancement, c'est le 13 décembre à Vallon-en-Sully, à la médiathèque, à partir de 14h30, à la médiathèque de Vallon-en-Sully. Et par la suite, eh ben, ce que j'encourage les personnes intéressées, c'est d'aller sur Internet, taper « Mon village de la résilience », et vous allez automatiquement tomber sur un site et sur lequel eh ben, il y aura plein de choses. Il y aura un bon de commande, il y aura l'explication du bouquin, il y aura plein de trucs, quelques vidéos aussi, dont une où c'est ma petite fille qui me pose des questions et à qui je réponds.
Eh bien, Michel Ravel, merci beaucoup pour cette interview sur RCF.
Merci beaucoup, merci à tout le monde et puis à très bientôt, j'espère. Au revoir.
Au revoir.